les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perronne.
Chers auditeurs, bonsoir. Donc pour le second volet, donc je vous informe donc que pour la deuxième fois, nous recevons Robert Redeker, donc qui s'est exprimé la semaine dernière. Il nous fera un rapide résumé de ce qu'il a exposé donc la semaine dernière. Je vous rappelle que Robert Redeker est agrégé de philosophie et qu'il collabore à plusieurs périodiques comme l'hebdomadaire Marianne et le Figaro en particulier. Il a été aussi membre du comité de lecture d'État moderne. Monsieur Redeker, bonsoir. Serge Malter, bonsoir. Est-ce que vous pourriez repasser ce que vous avez dit la dernière fois, rapidement, bien sûr.
Bonsoir à tous de Rechef. Alors, la semaine dernière, puisque nous sommes plusieurs, j'ai été un petit peu interrogé sur des éléments biographiques, autobiographiques. J'ai raconté dans quelles circonstances je suis né dans le Couserans, à Lescure, puis nous avons abordé surtout la question de la retraite et de la vieillesse, et nous nous sommes penchés sur l'actualité du mouvement contre la réforme de la retraite auquel nous assistons en ce moment.
Voilà, donc je vous rappelle que vous aurez sans doute la possibilité de réécouter cette émission ou l'émission précédente aussi en podcast. Donc, effectivement, c'est peut-être possible. Hein. Alors, Robert Redeker, nous allons continuer. Alors, sur la retraite, est-ce que vous pensez que derrière ce mouvement de retraite, qui est un mouvement de contestation sociale, il y a aussi le malaise d'une certaine société qui s'est manifestée depuis quelques années par le phénomène des gilets jaunes? Alors, les gilets jaunes, on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce qu'ils continuent à agir?
Bien entendu, je crois que ils étaient présents et ils seront de plus en plus présents. Ils étaient présents aux manifestations de la semaine dernière et ils seront de plus en plus présents parce que la question qui est posée derrière, le phénomène des retraites, c'est une question sociale et c'est une question éthique. Hein. C'est la question de la place dans la société. Que faisons-nous dans la société? Pourquoi sommes-nous mis de côté? Pourquoi sommes-nous relégués? Et donc finalement, qu'est-ce que c'était ce mouvement des gilets jaunes tout à fait passionnant? Bon, c'est la tentative des invisibles, et ceux qui ne se manifestent jamais, d'entrer dans le champ de la visibilité et de prendre la parole. Alors c'est quelque chose de très ancien dans l'histoire de France. Ça existe dès le Moyen-Âge avec les jacqueries, hein, qui sont très fréquentes. Sous l'Ancien Régime, c'est la plus grande partie du peuple qui est invisible. Bon, alors je dis cela. Vous voyez, moi je suis monarchiste, mais il faut, je reconnais qu'il y a cette invisibilité-là. Sous la Révolution française, ce que nous appelons aujourd'hui les gilets jaunes, c'est le tiers-état. Bon. Donc depuis très longtemps, il y a une partie de la société qui est mise comme ça sous le boisseau, qui est sans doute la majorité, qui n'a pas droit à la représentation, qui n'a pas droit à la parole, qui n'est pas habitué non plus à la parole publique comme ça. Et c'est le tiers-état, en fait. Et le fameux tiers-état qui a surgi, et puis il surgit au moment de la Commune aussi. Voilà. L'avenir du mouvement contre la réforme de la retraite que nous avons aujourd'hui, je crois qu'il est dans ce tiers-état. Alors, je ne suis pas... J'ai une amie voyante, bon, mais moi, je n'ai pas son don pour prévoir l'avenir. Et je ne lui ai pas demandé là-dessus, non plus, sur ce sujet. Mais il me semble que cette affaire est très très loin d'être terminée, que nous avons mis le doigt dans un engrenage historique qui va durer assez longtemps, et que la question politique qui est devant nous, c'est celle qui a été posée par les Gilets jaunes, et c'est la présence de ce tiers-État, de cette France invisible sur le devant de la scène, qui va durer et qui va...
France des préfectures et des sous-préfectures.
Et qui va conduire à des transformations politiques qu'aujourd'hui, personne ne peut encore deviner.
Alors, vous avez dit que vous étiez monarchiste. Alors, monarchiste, nous ne sommes pas habitués à entendre quelqu'un, mais peut-être que je suis ignorant, mais on n'est pas habitué à entendre quelqu'un se proclamer monarchiste. Donc, c'est quand même une certaine forme de courage, mais peut-être que je me trompe. Alors, pourriez-vous dire pourquoi êtes-vous monarchiste?
On peut être monarchiste et républicain. Il y a beaucoup de monarchies en Europe qui sont tout à fait garantes de la liberté et des libertés, ne serait-ce que de l'autre côté de la frontière, quand on va en Espagne, ou bien quand on va aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, au Danemark, en Suède, en Norvège. On ne peut pas dire que tous ces pays-là soient d'affreuses dictatures et d'affreuses tyrannies, et que ces pays soient couverts de camps de concentration. Même au contraire. L'aventure d'un tyran comme Napoléon n'a pu être possible que parce que tout à coup le pouvoir était accessible à tout le monde, hein. Parce qu'il y a eu tout à coup, avec la rupture révolutionnaire, une vacance du pouvoir. Le pouvoir, c'était la lignée, mais voilà, la lignée est finie, et bien la porte est ouverte aux aventuriers, ce que fut Napoléon. Alors voilà, quels sont les avantages. Alors pourquoi peut-on être monarchiste? Bon, je le suis un peu comme l'était Julien, hein, l'ancien directeur de France 2, Antenne 2, Marcel Julien, c'est-à-dire pas du tout au sens des agitateurs actuels. Bon, et il me semble que...
C'est une éthique personnelle, en fait.
Voilà, oui. Il me semble que dans une époque contre la nôtre, comme la nôtre, la crise, c'est pas seulement celle de la représentation, crise que l'on a vue avec la très forte abstention à toutes les élections, c'est aussi une crise de la figuration. Enfin, crise de la figuration, de la transmission. Figuration, nous sommes désormais incapables de nous figurer le visage de la France. Voilà. Et la lignée royale, c'était cela.
Voilà. Bon.
Et je crois que c'est très important pour faire une sorte d'unité et de la transmission également, parce que la fonction royale, c'est de faire en sorte que ce qui a été reçu du passé soit sauvegardé et transmis, y compris le fait national. Voilà.
Oui, et alors il s'avère que, je vous remercie pour votre réponse et pour la franchise de votre réponse, et donc justement, vous parlez de la France et de l'image que peut donner la France, mais avez-vous le sentiment, comme les sondages le laissent présager, qu'il y a une détérioration de la langue française, et en particulier au niveau de l'enseignement du français? Et aussi, on parlera accessoirement de, si vous voulez... parler du français, de la langue inclusive. Mais en fait, nous commencer par la langue française.
Ce n'est pas un accident. Alors, cette détérioration, c'est quelque chose que nous pouvons entendre lorsque nous écoutons la radio, par exemple, ou la télévision, ou bien lorsque nous écoutons le personnel politique. Et nous pouvons comparer la manière dont le personnel politique manie la langue française aujourd'hui avec la manière qui était celle du général de Gaulle ou de Georges Pompidou ou bien de Chaban Delmas. Jamais ces personnes ne se seraient exprimées comme l'a fait très récemment dans un tweet Monsieur Darmanin, qui, pour défendre ce qu'il appelle la valeur travail et l'école. Et l'école fait une faute d'orthographe et de français volontairement. C'est-à-dire parlant comme Nicolas Sarkozy, en annulant la négation, ne pas dire ce n'est pas ça, mais c'est pas ça.
D'accord. Voilà. Oui.
Et paradoxalement, il y a l'apologie de l'école, du travail à l'école là-dedans. Mais Alors c'est évidemment volontaire et c'est lié à un véritable mépris du peuple. C'est-à-dire, vous, peuple, vous parlez ainsi, je parle comme vous. Voilà. Oui. Donc ce sont les élites qui supposent que dans le peuple, on parle très très, très très mal français, que dans le peuple, on fait des fautes sans arrêt de français. Et donc, on va défendre l'école en faisant ces fautes même. C'est
un sacré paradoxe, quand même.
Oui, c'est le mépris. Si vous relisez ce tweet de M. Darmanin, vous allez être... Alors, ce sont des choses que l'on ne pouvait imaginer du général de Gaulle ou de Georges Pompidou. Donc, là...
On peut aller même jusqu'à Mitterrand.
Oui, et même jusqu'à François Mitterrand. Oui. Qui, voilà. Donc, cette dégradation, cet effondrement de la langue française est un phénomène général. Je ne crois pas qu'il soit seulement scolaire. Mais ce sont quand même les élites politiques qui ont voulu que l'enseignement du français recule à l'école primaire, que le nombre d'heures consacrées au français soit de plus en plus faible à l'école primaire, voilà, qui ont voulu que disparaisse le passé simple, voilà, que finissent par disparaître tous les autres temps, excepté le présent et le futur. Mais alors, que veut-on que veut-on ceci? Bon, à quoi servent les temps de la conjugaison? Voilà, ils servent justement à la construction du temps, et donc ils servent à s'orienter dans le temps. Voilà. Donc, ce que l'on veut, ce sont des individus incapables de s'orienter dans le temps, qui ne connaissent ni le présent ni l'avenir, ni le passé ni l'avenir, et qui sont dans la consommation et dans la réaction aux sollicitations que donne la télévision ou que donne la publicité, si vous voulez. C'est cela que l'on veut. Et c'est pour cette raison que l'on a détruit à l'école l'enseignement de la grammaire. C'est quelque chose qui est, je crois, qui est pensé, qui est voulu. Et je ne fais pas du complotisme en disant cela. Lorsque j'étais à l'école primaire, mes instituteurs insistaient beaucoup sur l'enseignement de la concordance des temps. Je ne sais pas, on y passait des heures, oui, des heures et des heures.
Je me souviens très bien, oui, voilà. Effectivement.
C'est formidable. Aujourd'hui, il n'y a plus de concordance des temps. On n'enseigne plus les temps, ni même en sixième, ni même en troisième. Lorsque j'étais à l'école primaire, puis en sixième, on faisait de l'analyse logique pour développer l'intelligence et de l'analyse grammaticale. On distinguait la logique et la grammaire. Ça n'existe plus. On a fait disparaître tout cela. Pourquoi ?
Tout cela est volontaire, alors, d'après vous.
Il y a un projet anthropologique derrière, qui est le projet de fabriquer un certain type d'homme.
Donc là, on rentre dans le complotisme, alors, si, non, permettez-moi.
Non, c'est pas du complotisme, c'est le système. Oui. C'est-à-dire, c'est le système de production, consommation exige cela, et parce que des êtres à l'intelligence logiquement structurée, des êtres dont la grammaire soit finalement le fond de la manière de penser, qui savent s'orienter dans le temps, seront des personnes beaucoup plus difficiles à transformer en simples consommateur. Et on voit également que on pense la politique elle-même comme un choix consumériste. Alors, certains leaders,
tout est consommation, voilà, à l'heure actuelle.
Certains leaders politiques, comme notre président de la République, et Emmanuel Macron, raisonnent comme un grand technocrate, directeur d'une entreprise de publicité. Il y a des cibles, c'est-à-dire des parts de marché. C'est ce qui explique les apparentes contradictions de Macron. il faut dire ceci à telle part de marché, ceci à telle part de marché, ceci à telle autre part de marché. Voilà. Et là, on est en dehors de ce qu'on appelait jusqu'ici politique, on est dans le marketing politique. Bon. Alors, l'effondrement de la langue française et de la logique est quelque chose de nécessaire pour que la transformation des individus en consommateurs qui vont choisir, comme on choisit une marque de lessive, Macron, Mélenchon, Le Pen, j'allais dire Le Canuet, donc Bayrou. Vous comprenez ce que
tout
je veux
dire? Tout à fait, je vous comprends.
Donc l'appauvrissement du français n'est pas un phénomène accidentel, hein, c'est quelque chose de systémique.
D'accord. Et est-ce que vous voulez parler rapidement, parce que le temps passe, de la langue inclusive? Enfin, vous le voyez.
Oui.
Puisque nous parlons du français, donc nous pouvons parler de, bon, de ce phénomène rapidement.
Oui, je vais remonter un petit peu en amont. Il y a une alliance qui s'est produite en mai 68 entre l'univers libertaire et le capitalisme. Voilà. Et cela contre le monde ouvrier ou contre ce qu'on appelait le communisme, etc., pour le faire disparaître, hein, si vous voulez. Donc, et cette alliance entre le monde libertaire et le monde capitalisme conduit au wokisme d'aujourd'hui. Bon, l'écriture inclusive, c'est un de ces aspects-là du wokisme. Alors, quel est le but de l'écriture inclusive ? C'est de faire disparaître la langue française, en particulier, on dit que la langue française, c'est la langue de la clarté, donc de la clarté logique, de l'organisation logique. Donc, vous faites exploser la logique et le vocabulaire quand vous introduisez la langue inclusive, l'écriture inclusive, et il ne reste que des débris. Les êtres humains sont alors complètement atomisés, mais la langue aussi est atomisée.
Oui, je vous remercie pour votre analyse, et donc il nous reste quand même peu de temps, et je voudrais quand même, nous avons abordé tout à l'heure la vieillesse, je voudrais parler de la mort.
La mort, c'est depuis les deux.
Nous sommes avec un philosophe, donc nous allons en profiter. Nous allons savoir ce que, oui, vous pensez de la mort qui est rejetée de plus en plus. On la rejette, on meurt tout seul dans un hôpital. Il n'y a plus toutes ces cérémonies civiles qui accompagnaient le défunt. D'ailleurs, vous voyez, on ne dit plus mort, on dit défunt maintenant.
La mort, décédé. Voilà, la mort était un événement social. Et aujourd'hui, tout se passe que lorsqu'on a mort dans la famille, on le cache. Donc, comme si c'était honteux, je me souviens, lorsque j'étais enfant, quand il y avait un mort dans une maison, ben, les voisins venaient. Les voisins venaient le voir. Donc, c'était un événement social collectif. Et donc, c'est quand même très, très lié à ce dont nous parlions la semaine dernière, hein, à la disparition des solidarités et à l'individualisation générale. Donc désormais, on cache la mort comme si elle était quelque chose de honteux, quelque chose de sale, alors que, depuis les débuts, la mort, c'est la grande initiatrice de l'humanité. C'est bien parce qu'ils ont pris conscience de la mort que les hommes ont inventé l'art. C'est cela. C'est parce que, alors, l'anthropologie vous dit que c'est quand ils ont commencé à enterrer leurs morts que les hommes se sont séparés des autres animaux. Donc c'est la base, voilà, la conscience de la mort, c'est la base de hominisation, c'est-à-dire humanisation d'être humain. Et lorsque l'on va vers l'inverse, lorsque l'on rejette la mort dans l'ombre, on est sans doute aux portes d'une déshumanisation. En tout cas, on fait preuve de déshumanisation.
Alors, l'incinération aussi, ça rejoint ce que vous dites un petit peu.
L'incinération, je suis assez opposé à l'incinération. Alors, je l'explique dans un livre qui s'appelle « L'éclipse de la mort ». Ça ne va pas être difficile à expliquer en deux minutes. Mais bon... Je crois que d'abord c'est paradoxalement un refus de la nature. C'est-à-dire c'est le refus de que nous décomposions jusqu'à rendre à la nature tout ce qu'elle nous a donné.
Oui, d'accord.
C'est aussi une sorte d'amour du néant. Voilà, parce que la décomposition, nous devenons cendre dans l'incinération. Alors que la décomposition, c'est nous devenons poussière. Donc les poussières sont des germes. C'est-à-dire, alors que les cendres ne sont plus rien du tout. C'est le néant. Si vous voulez. De grands anthropologues et vous ont dit nous sommes de la poussière d'étoiles. Oui, c'est ça.
Berrives.
Oui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est la poussière d'étoiles qui a fait venir la vie. Donc la poussière est potentiellement vivante, elle est germe de vie, alors que les cendres, c'est le néant. Donc je vois dans l'incinération une sorte de culte du néant contre le germe de la vie qui est la poussière.
Oui, donc je vous remercie. Donc vous êtes philosophe reconnu, et donc nous avons beaucoup apprécié vos prestations. Alors, si vous le souhaitez, je vous propose une troisième émission, donc de nous retrouver pour une troisième fois, si vous êtes d'accord.
Ce sera avec plaisir.
Puisque nous n'avons pas abordé l'ensemble des sujets que nous devions aborder.
Je suis trop bavard.
Vous n'êtes pas trop bavard, mais donc vous êtes un philosophe, et donc vous parlez de ce qui concerne la philosophie, c'est tout ce qui concerne la vie. Et comme le disait Hegel, je l'ai dit tout à l'heure, Hegel disait bien que la philosophie, c'est le temps. C'est le temps, c'est replacer le temps dans son contexte. Donc, replacer le temps dans son contexte, ça veut dire le replacer dans le phénomène de la mondialisation. Hein, donc, il y a Schumpeter, il y a tous ces phénomènes philosophiques. Donc, je pense que nous ferons donc une troisième émission. Donc, si vous voulez faire une conclusion.
Une conclusion, c'est difficile. Donc, je veux dire que j'étais très heureux de passer ce moment avec vous deux et avec les auditeurs de RDC. Radio du Couserans.
Bien, écoutez, chers auditeurs, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous pour la troisième fois. Donc, c'est rare de faire trois émissions, mais vu l'importance des sujets et puis ce caractère de la philosophie qui aborde certains thèmes dont on ne parle pas souvent parce qu'on les occulte ou alors on ne s'y interroge pas. Donc, je pense qu'une troisième émission, donc, s'avérerait nécessaire. Donc, à la semaine prochaine, monsieur Redeker.
Les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perron.